Ivanhoé, chapitre 37. Le tribunal, érigé pour le jugement de l'innocente et malheureuse Rebecca, occupait le dais ou la partie élevée de l'extrémité supérieure de la grande salle, espèce de plateforme que nous avons déjà décrite, comme la place d'honneur réservée aux habitants ou aux convives les plus distingués d'un château du temps de Richard. Sur un siège élevé, directement en face de l'accusé, était assis le grand maître du temple, couvert de son grand manteau blanc et tenant à la main le bâton mystique où était gravé le symbole de l'ordre. À ses pieds se trouvait une table occupée par deux écrivains, chapelains de l'ordre, dont le devoir était de rédiger un rapport formel des événements du jour. Les vêtements noirs, les têtes tonsurées, les regards austères de ces ecclésiastiques offraient un grand contraste avec l'apparence guerrière des chevaliers siégeant au tribunal, soit qu'ils demeurassent dans la préceptorerie ou qu'ils y vinssent pour y assister le grand maître. Les précepteurs, dont quatre étaient présents, occupaient des sièges plus bas et placés en arrière de celui de leur supérieur, et les simples chevaliers, qui ne jouissaient pas d'un rang aussi élevé dans l'ordre, étaient assis sur des bancs encore plus bas, et qui étaient à la même distance des précepteurs que ceux-ci l'étaient du grand maître. Derrière eux, mais toujours sur le dais ou estrade de la salle, se tenaient les écuyers de l'ordre, vêtus aussi d'habits blancs, mais d'une étoffe plus grossière. Toute l'assemblée offrait l'aspect de la gravité la plus profonde, et sur la figure des chevaliers, on remarquait les signes de l'audace militaire en même temps que l'air solennel qui convenait à des hommes religieux, et qu'ils ne pouvaient manquer de prendre en présence de leur grand maître. Le reste de la salle, c'est-à-dire la partie inférieure, était rempli de gardes armés de pertuisanes et de tous ceux que la curiosité avait amenés là pour voir en même temps un grand maître et une sorcière juive. La majeure partie de ces personnages inférieurs étaient à un degré quelconque attachés à l'ordre, et en conséquence se distinguaient par leur costume noir. Mais l'entrée, cependant, n'avait pas été refusée aux paysans des cantons voisins, car Beaumanoir avait pris à cœur de donner la plus grande publicité au spectacle édifiant de la justice qu'il administrait. Ses grands yeux, bleus, semblaient se dilater à mesure qu'il regardait autour de l'assemblée, et sa contenance paraissait exaltée par la dignité consciencieuse et le mérite imaginaire du rôle qu'il allait remplir. Un psaume, qu'il accompagnait lui-même d'une voix grave et onctueuse, et que l'âge n'avait pas affaibli, commença la procédure du jour. Les mots sacramentels, « Venite exultemus domino », si souvent chantés par les Templiers au moment d'attaquer leurs ennemis terrestres, furent jugés par Lucas convenables pour célébrer le triomphe prochain qu'il allait remporter sur les puissances des ténèbres. Les sons graves et prolongés, dans lesquels s'unissaient en chœur 100 voix masculines, habituées à ces chants, montèrent jusqu'à la voûte de la salle et se déroulèrent sous ses arceaux, avec le bruit terrible et solennel des eaux puissantes qui se heurtent dans un lit profond. Lorsque les chants eurent cessé, le grand maître promena lentement ses regards sur le cercle qui l'entourait et s'aperçut que le siège d'un des précepteurs était vacant. Brillant de Bois Guilbert, qui devait l'occuper, avait quitté sa place et se tenait debout à l'extrémité de l'un des bancs destinés aux compagnons du chevalier du temple. D'une main, il étendait son long manteau de manière en quelque sorte à cacher sa figure, tandis que de l'autre, il tenait son épée, avec la pointe de laquelle, quoiqu'elle ne fût pas sortie du fourreau, il traçait lentement des caractères sur le parquet en chêne. « Le malheureux !» dit le grand maître, après avoir regardé Brillant d'un air de compassion. « Tu vois, Conrad, quel effet ce spectacle imposant produit sur lui ! Le regard léger de la femme aidée par le prince des puissances infernales peut-il réduire à cet état un brave et digne chevalier ? Tu le vois, il n'ose nous regarder, il n'ose envisager Rebecca. Qui sait par quelle impulsion de la part de son tourmenteur sa main trace ses lignes cabalistiques sur le parquet. Il se peut que notre vie soit ainsi menacée. mais nous méprisons ce vil ennemi et nous le défions. Semper Leo percutiatur. » Ces observations furent communiquées à voix basse, par Beaumanoir, à son homme de confiance, Conrad Montfichet. Puis il éleva la voix et s'adressant à l'assemblée. « Révérends et vaillants hommes, chevaliers, précepteurs et compagnons du Saint-Ordre, mes frères et mes enfants, vous aussi, nobles et pieux écuyers qui aspirez à porter cette sainte croix, et vous aussi, frères chrétiens de tous les états, sachez que ce n'est pas le manque de pouvoir en notre personne qui nous a déterminés à réunir la congrégation. Car, quelle que soit notre infériorité personnelle, nous avons reçu, avec ce bâton, le plein pouvoir de juger et de prononcer dans tout ce qui concerne le bien-être de ce Saint-Ordre. Le bienheureux Saint-Bernard, dans la règle de notre ordre chevaleresque et religieux, a dit, dans le 49e chapitre, que les frères ne seraient réunis en conseil que par la volonté et l'ordre express du grand maître, nous laissant la liberté, ainsi qu'aux dignes pères qui nous ont précédés dans cet office, d'apprécier la nécessité, aussi bien que le temps et le lieu d'une convocation, soit partielle, soit générale, de l'ordre réuni en chapitre. Ainsi, dans tous les chapitres de cette sorte, il est de notre devoir d'écouter les avis de nos frères et de nous prononcer selon notre bon plaisir. Mais, quand le loup affamé attaque le troupeau et emporte une des brebis, c'est le devoir du bon pasteur de réunir ses compagnons, afin que, avec leurs arcs et leurs frondes, ils puissent attaquer l'envahisseur, selon notre règle bien connue qu'il faut toujours assommer le lion. Nous avons donc sommé de comparaître devant nous une femme juive, du nom de Rebecca, fille d'Isaac d'York, femme infâme pour ses sortilèges et ses sorcelleries, au moyen desquels elle a égaré les sens et perverti la raison, non d'un simple manant, mais d'un chevalier. Non d'un simple chevalier, mais d'un chevalier consacré à la défense du Saint-Temple. Non d'un chevalier compagnon, mais d'un précepteur de notre ordre, le premier en honneur comme en dignité. Notre frère, Brillant de Bois-Guibert, nous est bien connu, ainsi qu'à tous ceux qui m'entendent, comme un véritable et zélé champion de la croix, dont le bras a fait des prodiges de valeur dans la Terre Sainte et a purifié les saints lieux par le sang des infidèles, dont la présence les souillait. La réputation de sagacité et de prudence de notre frère n'est pas moindre parmi nous que celle que lui ont valu sa valeur et son savoir. De telle sorte que les chevaliers, tant des contrées de l'Orient que du pays de l'Occident, ont cité le nom de Bois-Guibert comme celui d'un homme que l'on peut admettre au concours pour l'héritage de ce bâton, quand il plaira au ciel de nous décharger de ce fardeau. Si nous apprenions que cet homme, si honoré et si honorable, se dépouillant tout à coup de tout respect pour son caractère, ses vœux, ses frères et ses espérances, a rapproché de lui une fille juive, qu'il a erré dans cette société lubrique et parcouru dans cette compagnie impure des lieux solitaires, a défendu sa personne au mépris même de sa propre vie, et enfin poussé l'aveuglement et la folie jusqu'à l'introduire dans une de nos préceptoreries. Que pourrions-nous dire, si ce n'est que le noble chevalier était possédé par quelque démon malin ou influencé par quelque sortilège sinistre? Si nous pouvions supposer qu'il en fût autrement, croyez, mes frères, que ni le rang, ni la valeur, ni la haute réputation, ni aucune considération terrestre ne pourraient nous empêcher d'appeler sur lui le châtiment, afin que l'iniquité soit écartée, selon le texte « A offerte malum avobis ». Car ils sont à la fois nombreux et atroces, ces actes de transgression contre la règle de notre ordre béni qui compose cette histoire lamentable. Premièrement, il a marché, selon sa propre volonté, contrairement au chapitre 33, « Quod nullus juxta propriam voluntatem incedat ». Deuxièmement, il a été en communication avec une personne excommuniée. Chapitre 42, « Ut fratres non participant cum excommunicatis » et par conséquent, il s'est attiré une part de l'anathéma Maranatha. Troisièmement, il a eu commerce avec des femmes étrangères, contrairement au chapitre « Ut fratres non conversantur cum extraneis mulieribus ». Quatrièmement, il n'a pas évité de plus, nous devons croire qu'il a sollicité le baiser de la femme, par lequel, selon la dernière règle de notre ordre renommé, « Ut fugiantur oscula », les soldats de la croix sont conduits au piège. Pour des fautes si odieuses et si multipliées, Brian de Bois-Guilbert serait retranché et expulsé de notre congrégation. En serait-il même l'œil droit et la main droite ? Le grand maître s'arrêta. Un sourd bourdonnement parcourut l'assemblée. Quelques-uns des plus jeunes frères, qui avaient souri au statut de « Osculis fugiendis », reprirent une gravité convenable et attendirent avec inquiétude ce que le grand maître allait ajouter. « Voilà, » dit-il, « à la vérité, quel serait le grand châtiment d'un chevalier du temple qui aurait péché volontairement contre les règles de son ordre dans ces matières importantes ? Mais, si au moyen de charmes et de sortilèges, Satan a tendu son pouvoir sur le chevalier, peut-être parce que ses regards se seront arrêtés avec trop de complaisance sur la beauté d'une jeune fille. Nous avons alors plutôt à plaindre qu'à châtier sa faute. Et tout en lui imposant une pénitence qui puisse le purifier de son iniquité, nous tournons le tranchant aigu de notre indignation sur le maudit instrument qui a failli entraîner sa perte absolue. Avancez donc et portez témoignage, vous qui avez connaissance de ces déplorables faits, afin que nous puissions voir si notre justice peut être apaisée par la punition de cette femme infidèle, ou si nous devons, avec un cœur navré, procéder à des mesures plus rigoureuses contre notre frère. » Plusieurs témoins furent appelés pour prouver les périls auxquels Bois-Guilbert s'était exposé en cherchant à sauver Rebecca du château enflammé, et la manière dont il l'avait ensuite protégée au péril de ses jours. Ils donnèrent ces détails avec toute l'exagération à laquelle se livrent en général les esprits vulgaires lorsqu'ils ont été fortement impressionnés par quelque événement extraordinaire, et leur penchant naturel pour le merveilleux se trouva stimulé par l'air de satisfaction avec lequel l'éminent personnage qui présidait l'assemblée écoutait leur récit. De cette manière, les dangers que Bois-Guilbert avait affrontés, assez grands déjà par eux-mêmes, devinrent merveilleux dans leur narration. Le dévouement du chevalier pour la défense de Rebecca fut exagéré au-delà de toutes les limites, non seulement de la prudence, mais encore du zèle chevaleresque le plus frénétique. Et sa déférence pour tout ce qu'elle disait, quoiqu'elle lui adressât souvent des paroles pleines de reproches, fut représenté comme ayant été poussé à un excès qui, dans un homme altier et impérieux, semblait presque surnaturel. Le précepteur de Templestowe fut ensuite sommé de déposer de quelle manière Bois-Guilbert et la Juive étaient arrivés à la préceptoterie. La déposition de Malvoisin fut faite avec beaucoup d'adresse, mais tout en s'étudiant à ménager les sentiments de Bois-Guilbert, il laissait échapper de temps en temps des insinuations qui paraissaient faire supposer qu'il avait agi sous l'empire d'une aliénation mentale passagère, tant il semblait amoureux de la jeune fille dont il était accompagné. Avec des soupirs de contrition, le précepteur avoua le repentir dont il était pénétré pour avoir ouvert les portes de la préceptorerie à Rebecca et à son amant. « Mais, » ajouta-t-il en terminant, « ma confession a été faite à notre très révérend père, le grand maître. Il sait que mes intentions étaient pures, bien que ma conduite puisse avoir été irrégulière. Je me soumettrai donc avec joie à toute pénitence qu'il jugera à propos de m'imposer. » « Tu as bien parlé, frère Albert, » dit Beaumanoir. « Tes intentions étaient pures, puisque tu as cru par là pouvoir arrêter ton frère égaré dans la carrière de la perdition ou le précipiter sa folie. Mais ta conduite a été blâmable, comme celle d'un homme qui, pour arrêter un coursier fougueux, s'attacherait à l'étrier au lieu de le saisir par la bride. se nuirait à lui-même sans réussir dans son projet. 13 paternostères sont prescrits par notre pieux fondateur pour les matines, et 9 pour les vêpres. Tu en réciteras le double. Les Templiers ont la permission de manger de la chair 3 fois par semaine. Tu jeûneras pendant les 7 jours. Continue ce régime pendant 6 semaines, et ta pénitence sera accomplie. Avec les dehors hypocrites de la plus profonde soumission, le précepteur de Templestowe s'inclina jusqu'à terre devant son supérieur et reprit sa place. « Ne serait-il pas bon, mes frères, demanda le grand maître, d'examiner un peu la vie passée et les actions de cette femme, en vue surtout de nous assurer si elle n'a jamais fait usage de charmes magiques et de sortilèges, puisque les témoignages que nous venons d'entendre pourraient nous porter à croire que, dans cette malheureuse affaire, notre frère a été entraîné par des agaceries et des illusions infernales. » Hermann de Goodlafrique était le 4e précepteur présent à la séance. Les 3 autres étaient Conrad, Malvoisin et Boisgilbert lui-même. Hermann était un ancien guerrier dont la figure était labourée de cicatrices, de balafres, suite des blessures que lui avait faites le sabre des musulmans. Cet homme avait un rang élevé et jouissait d'une grande considération parmi ses frères. Il se leva et salua le grand maître, qui à l'instant lui accorda la permission de parler. « Très révérend père, dit-il, je voudrais savoir, de notre vaillant frère brillant de Boisgilbert lui-même, ce qu'il a à répondre à ces accusations prodigieuses, et de quel œil il voit maintenant ses malheureuses relations avec cette jeune juive. « Brillant de Boisgilbert, dit le grand maître, tu as entendu la question de notre frère Goodlafrique, je t'ordonne d'y répondre. » Boisgilbert, s'entendant interpellé par le grand maître, tourna la tête vers lui et garda le silence. « Il est possédé par quelque diable muet, reprit le grand maître. « Retire-toi, Satan! Retire-toi, esprit malin !»« Parle, brillant de Boisgilbert, je t'en conjure par ce symbole de notre ordre sacré. » Boisgilbert fit un effort sur lui-même pour cacher le mépris et l'indignation qui l'animaient, et dont il sentait que la manifestation n'aurait pu que lui être nuisible. « Brillant de Boisgilbert, dit-il enfin, ne réponds pas, très révérend père, à des accusations aussi vagues et aussi imaginaires. Si son honneur est attaqué, il le défendra de son corps et de cette épée qui a combattu pour la chrétienté. « Nous te pardonnons, frère brillant, reprit le grand maître, quoique te vanter ainsi devant nous de tes actions guerrières soit un acte d'orgueil et une nouvelle faute que nous attribuons à l'ennemi qui s'est emparé de toi. Cependant nous te pardonnons, parce que nous jugeons que tu parles moins d'après ton propre mouvement que sous l'impulsion de celui que, avec la permission du ciel, nous subjuguerons et chasserons de notre assemblée. » Un regard de dédain brilla dans les yeux noirs et orgueilleux de Boisgilbert, mais il ne répondit rien. « Et maintenant, reprit le grand maître, puisque la question de notre frère Goodlafrique n'a reçu qu'une réponse si peu satisfaisante, continuons notre enquête, mes frères, et avec le secours et l'appui de notre patron, nous fouillerons jusqu'au fond de cette iniquité mystérieuse. En attendant, que ceux qui savent quelque chose sur la vie et sur les actions de cette femme juive comparaissent devant nous. » Il se fit un mouvement dans la partie basse de la salle, et le grand maître, en ayant demandé la cause, on lui répondit qu'il y avait dans la foule un homme perclus, auquel la prisonnière avait rendu l'usage complet de ses membres au moyen d'un baume miraculeux. Un pauvre paysan de nation saxonne fut en quelque sorte traîné jusqu'à la barre, tremblant de frayeur d'avoir encouru quelque châtiment pour le crime qu'il avait commis en se faisant guérir de la paralysie par une jeune fille juive. Il n'était pas, à la vérité, absolument guéri, car il s'avança appuyé sur 2 béquilles pour faire sa déposition. Ce ne fut pas sans une grande répugnance et sans verser beaucoup de larmes qu'il fit sa déposition. Mais il avoua pourtant que 2 ans auparavant, résidant à York et y travaillant pour le riche juif Isaac, de son métier de menuisier, il avait été tout à coup attaqué d'une paralysie qu'il avait clouée dans son lit, jusqu'à ce que des remèdes appliqués selon les prescriptions de Rebecca, et principalement un baume excitant et qui sentait l'épice, lui eussent rendu en quelque sorte l'usage de ses membres. « De plus, ajouta-t-il, Rebecca lui avait donné un pot de cet onguent précieux et l'avait gratifié en outre d'une pièce de monnaie pour l'aider à revenir chez son père, près de Templestown. Et s'il plaît à votre grandeur, ajouta l'homme, je ne puis croire que la jeune fille ait voulu me nuire, bien qu'elle ait le malheur d'être juive, car au moment même d'employer son remède, je disais un pater et un credo, et jamais le médicament n'a moins bien opéré. « Silence, esclave !» s'écria le grand maître, « et retire-toi. Il convient bien à des brutes telles que toi de venir vanter des remèdes infernaux et de louer leurs bras à une race exécrée. Je te dis que le démon a l'art d'imposer des maladies, dans le seul dessein de les faire disparaître, afin de mettre en crédit quelque genre de cure diabolique. As-tu cet onguent dont tu parles ?» Le manant, fouillant dans son sac d'une main tremblante, en retira une petite boîte, sur le couvercle de laquelle étaient gravés quelques caractères hébreux, preuve certaine pour la plupart des spectateurs qu'elle sortait de la pharmacie du diable. Après avoir fait le signe de la croix, Beaumanoir prit la boîte dans sa main, et, comme les langues orientales lui étaient familières, il lut facilement cette inscription gravée sur le couvercle. « Le lion de la tribu de Juda a vaincu. »« Singulière puissance de Satan !» s'écria le grand maître. « Qui peut changer les saintes écritures en blasphème et faire un poison de ce qui doit être notre nourriture journalière ? N'y a-t-il aucun médecin qui puisse nous dire quels sont les ingrédients qui composent cet onguent mystique ?» Deux praticiens, comme ils s'en donnaient le titre, l'un moine et l'autre barbier, s'avancèrent et avouèrent qu'ils ne connaissaient rien à la composition de cet onguent, si ce n'est qu'il exhalait une odeur de myrrhe et de camphre qu'ils prirent pour des herbes orientales. Mais avec cette malignité qu'inspire leur profession contre ceux qui y obtiennent des succès sans y être légalement agrégés, ils donnèrent à entendre que ce remède devait nécessairement provenir d'une pharmacopée magique et illicite, puisque eux, versés dans toutes les branches de l'art de guérir, en tant qu'elles étaient compatibles avec la conscience d'un chrétien, ils ne la connaissaient pas. Lorsque cette discussion médicale fut terminée, le paysan saxon demanda humblement qu'on lui restituât le remède qui lui avait été si salutaire. Mais à cette requête, le grand maître le regarda sévèrement. « Quel est ton nom, drôle ? » dit-il au perclus. « Hig, fils de Snell, » répondit le paysan. « Eh bien, Hig, fils de Snell, » reprit le grand maître, « apprends qu'il vaut mieux rester paralytique que de devoir le bienfait de sa guérison au secours de mécréants qui tiennent du démon le pouvoir de dire « Lève-toi et marche !» Apprends qu'il vaut mieux dépouiller les infidèles de leurs trésors par la force que d'accepter les dons de leur bienveillance, ou de les servir pour un salaire. Retire-toi, et fais comme j'ai dit. « Hélas !» répondit le paysan. « Si votre grandeur ne s'offense pas de l'observation, cette leçon vient trop tard pour moi, car je ne suis qu'un homme impotent. » Mais je dirai à mes deux frères, qui sont au service de Nathan ben Samuel le Riche, que votre seigneurie a dit qu'il est plus légitime de le voler que de le servir fidèlement. « Qu'on fasse retirer ce misérable bavard !» s'écria Beaumanoir, qui n'était pas préparé à réfuter cette application pratique de sa maxime générale. Hig, fils de Snell, rentra dans la foule. Mais s'intéressant au destin de sa bienfaitrice, il resta dans la salle, au risque d'attirer de nouveau le regard de ce juge sévère dont la vue le glaçait d'effroi. En ce moment, le grand maître ordonna à Rebecca de lever son voile. Ouvrant alors la bouche pour la première fois, elle répondit doucement et avec dignité « Ce n'est pas la coutume des filles de mon peuple de se découvrir le visage lorsqu'elles se trouvent seules dans une assemblée étrangère. » Les tons suaves de sa voix et la douceur de sa réponse éveillèrent dans l'auditoire un sentiment de pitié et de sympathie. Mais Beaumanoir, qui regardait comme un acte de vertu de réprimer tout sentiment d'humanité qui eût pu s'interposer entre lui et son devoir imaginaire, répéta ses ordres. Les gardes allaient donc écarter le voile de Rebecca lorsqu'elle se leva, et, s'adressant au grand maître et au chevalier qui l'entouraient, « Pour l'amour de vos filles !» s'écria-t-elle. « Hélas, j'oubliais que vous n'avez point de filles, mais par le souvenir de vos mères, pour l'amour de vos sœurs et au nom de la décence, ne souffrez pas que je sois maltraitée en votre présence et dépouillée de mon voile par la main grossière de ces hommes. Je vous obéirai, » ajouta-t-elle avec une expression de tristesse qui attendrit presque le cœur de Beaumanoir lui-même. « Vous êtes un peuple religieux. À votre commandement, je découvrirai devant vous les traits d'une malheureuse jeune fille. » Elle retira son voile et laissa voir un visage où la dignité le disputait à la timide modestie. Son extrême beauté excita un murmure d'étonnement, et les plus jeunes chevaliers, se regardant les uns les autres, se dirent, dans le langage muet des yeux, que ses attraits étaient le meilleur sortilège qu'elle eût pu employer pour gagner le cœur de Bois Guilbert. Mais Hig, fils de Snell, éprouva plus profondément que tous les autres l'effet que produisit la figure de sa bienfaitrice. « Laissez-moi sortir !» dit-il au garde qui se tenait aux portes de la salle. « Laissez-moi sortir. Si je la regardais encore une fois, je mourrais, car moi aussi j'ai contribué à sa perte. » « Paix, pauvre homme !» dit Rebecca, après avoir entendu son exclamation. « Tu n'as pu me nuire en disant la vérité, et tu ne peux me secourir par tes plaintes et tes lamentations. Paix, je t'en prie, retire-toi et mets-toi en sûreté. » Hig allait être expulsé par les gardes, qui craignaient que sa douleur bruyante n'attirât sur eux les reproches et sur lui le châtiment. Mais il promit de garder le silence, et on lui permit de rester. Les deux hommes d'armes, avec lesquels Albert Malvoisin avait eu besoin de s'entendre pour concerter leur déposition, furent sommés de comparaître. Quoiqu'ils fussent l'un et l'autre des scélérats endurcis, la vue de la captive et sa beauté radieuse parurent les interdire un instant. Mais un regard expressif du précepteur de Templestowe les rendit à leur insensibilité bourrue. Et ils déposèrent, avec une précision qui aurait paru suspecte à des juges plus impartiaux, des faits tout à fait faux, ou au moins insignifiants, et des plus naturels, mais qui se produisirent escortés du soupçon par la manière exagérée dont ils étaient racontés, et par les commentaires sinistres dont ils étaient accompagnés. Les détails de leur déposition eussent été de nos jours divisés en deux classes, savoir, celle qui était insignifiante et celle qui était physiquement impossible. Mais dans ces temps d'ignorance et de superstition, ces accusations étaient facilement admises comme des preuves de culpabilité. On aurait rangé dans la première ce qu'ils dirent, qu'on entendait Rebecca se parler à elle-même dans une langue inconnue, que les chansons qu'elle chantait parfois étaient d'une douceur singulière qui charmait les oreilles et faisait battre le cœur, qu'en se parlant quelquefois à elle-même, elle semblait attendre une réponse, que ses vêtements étaient d'une forme étrange et mystique, tout à fait différente de ceux que portaient les femmes honnêtes, qu'elle avait des bagues où étaient gravées des devises cabalistiques et que des caractères inconnus étaient brodés sur son voile. Toutes ces circonstances, si simples et si insignifiantes, furent écoutées gravement et comme autant de preuves, ou du moins comme fournissant matière à de forts soupçons que Rebecca entretenait une correspondance illicite avec des êtres mystérieux. Vint ensuite un témoignage non moins équivoque, que la crédulité du plus grand nombre des assistants recueillit avec avidité, tout incroyable qu'il était. Un des soldats l'avait vu opérer une cure merveilleuse sur un homme blessé, qu'ils avaient conduit avec eux au château de Torquilstone. Elle avait, dit-il, fait certains signes sur sa blessure en prononçant des mots mystérieux, lesquels, Dieu soit loué, il n'avait pas compris. Après quoi, le fer d'un trait d'arbalète était de lui-même sorti de la plaie, le sang s'était arrêté, la blessure s'était fermée, et au bout d'un quart d'heure, on avait vu le blessé marcher sur les remparts et dans le témoin à manœuvrer une mangonelle, machine à lancer de grosses pierres. Cette histoire était probablement basée sur le fait que Rebecca avait soigné Ivanhoé blessé pendant leur séjour au château de Torquilstone. La véracité de ce témoin était d'autant plus difficile à mettre en doute que, voulant produire une preuve incontestable pour soutenir sa déposition verbale, il tira de sa poche le fer même de l'arbalète, qui, selon son récit, avait été miraculeusement extrait de la blessure. Et comme le fer pesait une once pour le moins, cela confirma complètement l'allégation, si prodigieuse qu'elle parut. Son camarade avait été témoin, d'un créneau voisin, de la scène qui avait eu lieu entre Rebecca et Bois Guilbert, lorsque la juive avait été sur le point de se précipiter du haut de la tour. Pour ne le céder en rien à son camarade, ce drôle prétendit qu'il avait vu Rebecca se pencher sur le parapet de la tour, sous la forme d'un cygne blanc de lait, et sous cette forme, voltiger trois fois autour du château de Torquilstone, puis se replacer sur la tour et reprendre la forme d'une femme. Il n'aurait pas fallu la moitié de cet imposant témoignage pour convaincre de sorcellerie une vieille femme pauvre et laide, quand bien même elle n'eût pas été juive. Réunie à cette circonstance fatale, la masse de preuves devenait trop accablante pour que la jeunesse de Rebecca et sa beauté exquise puissent produire quelque impression en sa faveur. Le grand maître avait recueilli les suffrages et demandait à Rebecca, d'un ton solennel, ce qu'elle avait à dire contre la sentence de condamnation qu'il allait prononcer. « Invoquez votre pitié, » répondit la belle juive, d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Serait, je le sens bien, aussi inutile qu'avilissant. Vous dire que soulager les malades et les blessés d'une religion autre que la mienne ne peut déplaire au fondateur reconnu de nos deux croyances, ne me servirait pas davantage. Vous assurez que beaucoup de choses que ces hommes, puisse le ciel leur pardonner, ont rapportées contre moi sont impossibles, ne me profiteraient nullement, puisque vous croyez à leur possibilité. Et je gagnerais encore moins à vous expliquer que mon costume, mon langage et mes manières sont ceux de mon peuple. J'allais dire de mon pays, mais hélas, nous n'avons pas de pays, et je ne veux pas même non plus me justifier aux dépens de mon oppresseur, qui est là, et qui écoute les fictions calomnieuses qui paraissent convertir le tyran en victime. Que Dieu juge entre lui et moi, et j'aimerais mieux me soumettre 10 fois à la mort que vous me préparez, plutôt que d'écouter volontairement les propositions que cet homme de Bélial m'a forcé d'entendre. Moi, sans amis, sans défense, et sa prisonnière. Mais il est de votre foi, et sa plus légère affirmation l'emporte sur les protestations les plus solennelles de la malheureuse juive. Je ne veux donc pas rejeter sur lui l'accusation portée contre moi. Mais c'est à lui-même, oui, brillant de Bois Guilbert, à toi-même que j'en appelle. Ces accusations ne sont-elles pas fausses? Ne sont-elles pas aussi monstrueuses et aussi calomnieuses qu'elles sont ridicules ? Elle s'arrêta un moment. Tous les yeux se tournèrent vers Bois Guilbert. Il garda le silence. « Parle ! » reprit-elle. « Si tu es homme, si tu es chrétien, parle, je t'en conjure, par l'habit que tu portes, par le nom que tu as reçu de tes aïeux, par la chevalerie dont tu te glorifies, par l'honneur de ta mère, par la tombe et les ossements de ton père. Dis-le, je t'en conjure, ces choses sont-elles vraies ? » ?»«
Réponds-lui, mon frère, dit le grand maître,
si l'ennemi contre lequel tu luttes veut t'en donner la force. » Dans le fait, Bois Guilbert paraissait agité par des passions opposées qui bouleversaient ses traits. Et ce fut d'une voix très sourde qu'à la fin, il répliqua en regardant Rebecca. « Le papier ! Le papier !»« Enfin ! » reprit Beaumanoir, « voici un témoignage véritable. La victime de ces sorcelleries ne peut que nommer le papier fatal sur lequel, sans doute, est tracé le charme qui la condamne au silence. » Mais Rebecca comprit d'une autre manière les mots arrachés, pour ainsi dire, à Bois Guilbert, et jetant un coup d'œil sur le petit parchemin qu'elle continuait à tenir, elle y lut en caractère arabe. « Demandez un champion. » Les rumeurs diverses qui parcoururent l'assemblée à l'étrange réponse de Bois Guilbert fournirent à Rebecca le loisir de lire, puis de déchirer le billet sans être observée. Dès que le silence se fut rétabli, le grand maître dit « Rebecca, tu ne peux retirer aucun avantage du témoignage de ce malheureux chevalier, sur lequel, comme nous nous en apercevons trop bien, l'ennemi est encore tout puissant. As-tu quelque chose de plus à dire ?»« Il me reste encore une chance de salut, » dit Rebecca, « même selon l'esprit de vos lois féroces. Ma vie a été misérable, surtout depuis quelque temps, mais je ne veux pas sacrifier le don de Dieu tant qu'il m'offre le moyen de le défendre. Je nie la vérité de votre accusation. J'affirme que je suis innocente. Je réclame le privilège du jugement par les armes, où je serai représentée par mon champion. » « Qui donc, Rebecca ? » répliqua le grand maître, « mettra sa lance en arrêt pour une sorcière. Qui sera le champion d'une juive ?»« Dieu m'enverra un champion, » reprit Rebecca. « Il est impossible que dans la noble Angleterre, dans ce pays hospitalier, généreux et libre, où tant de chevaliers sont disposés à risquer leur vie pour l'honneur, il ne se trouve pas un homme qui veuille combattre pour la justice. Mais il suffit que je réclame l'épreuve des armes. Voici mon gage. » Elle retira de sa main un de ses gants brodés et le jeta devant le grand maître avec un mélange de simplicité et de noblesse qui excita un mouvement général de surprise et d'admiration. Chapitre 38. Lucas de Beaumanoir lui-même fut touché de la manière pleine de noblesse dont Rebecca venait de faire ce dernier appel. Cet homme n'était naturellement ni dur ni cruel, mais, ayant toujours été étranger aux passions mondaines et dominé par le sentiment du devoir le plus rigide, son âme s'était endurcie par la vie ascétique qu'il menait, par la puissance suprême dont il jouissait, et par l'obligation qu'il s'imposait de subjuguer les infidèles et d'extirper l'hérésie. Ses traits se détendirent, et leur sévérité habituelle se radoucit à la vue de la belle créature qui se tenait devant lui, seule, sans amis, et se défendait elle-même avec tant de fermeté et de courage. Il se signa deux fois, comme un homme qui se méfie de l'amollissement inaccoutumé d'un cœur, qui, en de telles occasions, ressemblait en dureté à l'acier de son épée. « Jeune fille, » dit-il enfin, « si la compassion que je ressens pour toi est produite par quelque artifice de ton art pernicieux, ta faute est grande. Mais j'aime mieux la regarder comme un sentiment naturel à mon cœur, qui gémit de voir une créature si gracieuse devenir un vase de perdition. Repens-toi, ma fille, avoue tes sorcelleries. Abandonne ta fausse religion, embrasse ce saint emblème, et tu pourras encore être heureuse en ce monde et dans l'autre. Placée dans quelque maison religieuse de l'ordre le plus austère, tu auras le temps de prier et de faire une pénitence convenable, et jamais ce repentir ne te coûtera un regret. Reçois la vie à ces conditions. Qu'a jamais fait pour toi la loi de Moïse, que tu veuilles mourir pour elle ? « C'est la loi de mes pères, » répondit Rebecca. « Elle leur a été donnée au milieu des foudres de la tempête, sur le mont Sinaï, dans la nuit et dans le feu. Vous le croyez vous-même, si vous êtes chrétien. Seulement, vous prétendez qu'elle n'est plus pratiquée. Mais ceux qui me l'ont enseignée ne m'ont jamais appris qu'elle fût révoquée. Qu'on fasse avancer notre chapelain, reprit Beaumanoir, et qu'il explique à cet infidèle opiniâtre.
Pardonnez-moi, dit Rebecca avec douceur, si je vous interromps. Je ne suis qu'une jeune fille incapable d'argumenter sur les vérités de ma religion, mais je saurai mourir pour elle, si telle est la volonté de Dieu. Souffrez que je sollicite une réponse à la demande que j'ai faite d'un champion.
Donnez-moi son gant, dit Beaumanoir.
Voilà, en vérité, continua-t-il en regardant le tissu léger. Voilà un gage bien fragile pour une demande aussi terrible que celle d'un combat à outrance. Vois-tu, Rebecca, autant ce gant mince et délicat diffère de nos lourds gantelets de fer, autant ta cause est au-dessous de celle du temple, car c'est notre ordre que tu as défié.
Mettez mon innocence dans le plateau, reprit Rebecca, et le gant de soie l'emportera sur le gant de fer.
Tu persistes donc dans ton refus de confesser tes crimes, et tu maintiens le cartel hardi que tu as porté.
J'y persiste, Seigneur, répondit la Juive.
Qu'il soit donc fait ainsi, au nom du ciel, reprit le grand maître, et que Dieu défende le bon droit.
Amen, répondirent les précepteurs placés autour du grand maître, et le mot fut répété solennellement par toute l'assistance.
« Mes frères, dit Beaumanoir, vous savez que nous aurions pu refuser à cette femme la faveur de l'épreuve par le combat. Mais, bien qu'elle soit juive et infidèle, elle est aussi étrangère et sans protecteur. Et à Dieu ne plaise qu'elle ait réclamé de nous sans l'avoir obtenue la protection de nos lois tutélaires. Nous sommes, d'ailleurs, chevaliers et soldats, aussi bien que prêtres, et ce serait pour nous une honte de refuser, sous aucun prétexte, un combat qui nous est offert. Voici donc, mes frères, l'état de l'affaire. Rebecca, fille d'Isaac d'York, est accusée, sur maintes circonstances plus que suspectes, d'avoir employé des sorcelleries contre la personne d'un noble chevalier de notre ordre sacré, et elle réclame le combat pour prouver son innocence. À qui, mes frères révérends, êtes-vous d'avis que nous délivrions le gage du combat, le désignant en même temps pour notre champion sur le champ clos ?
À Brillant de Bois-Guilbert, que la cause intéresse principalement, dit le précepteur de Godelafrique, et qui toutefois sait mieux que personne où est la vérité dans cette affaire.
Mais, s'écria le grand maître, si notre frère Brillant est sous l'influence d'un charme ou d'un sortilège, nous faisons cette observation seulement par prudence, car il n'y a personne au bras duquel nous puissions confier, avec plus d'assurance, cette cause, ou toute autre plus importante.
Mon révérend père, répondit le précepteur de Godelafrique, il n'y a pas de charme qui puisse affecter le champion qui s'offre à combattre pour le jugement de Dieu.
Tu parles bien, mon frère, dit le grand maître. Albert de Malvoisin, donne le gage de bataille à Brillant de Bois-Guilbert. Nous te chargeons, mon frère, continua-t-il en s'adressant à Bois-Guilbert, de te battre vaillamment, et nous ne doutons pas que la bonne cause ne triomphe. Et toi, Rebecca, fais attention. Nous t'accordons 3 jours, à compter d'aujourd'hui, pour trouver un champion.
C'est un délai bien court, répondit Rebecca, pour qu'une étrangère, qui est d'une foi différente, puisse trouver un homme qui veuille combattre pour sa cause et hasarder sa vie et son honneur contre un chevalier qui a la réputation d'un soldat à toute épreuve.
Nous ne pouvons le prolonger, reprit le grand maître. Il faut que le combat se livre en notre présence, et plusieurs raisons importantes nous obligent à partir le 4e jour.
Que la volonté de Dieu soit faite, répondit Rebecca. Je me fie à celui à qui, pour me sauver, un instant peut suffire aussi bien que tout un siècle.
« Tu as bien parlé, jeune fille, » s'écria le grand maître. « Mais nous savons qui peut prendre l'apparence d'un ange de lumière. Il ne reste qu'à désigner la place du combat et de l'exécution, s'il y a lieu. Où est le précepteur de cette maison ?»
Albert de Malvoisin, tenant toujours le gant de Rebecca à la main, parlait à Bois-Guilbert très vivement, mais à voix basse.
Eh quoi ? S'écria le grand maître. Il ne veut pas recevoir le gage ?
Il le recevra, il l'a reçu, très révérend père, reprit Malvoisin en glissant le gant sous son manteau.
Et quand au lieu du combat, je regarde comme le plus convenable la lice de Saint-Georges, appartenant à cette préceptorerie, et dont nous nous servons pour nos exercices militaires.
Fort bien, dit le grand maître. Rebecca, c'est dans ce champ clos que tu devras présenter ton champion. Et si personne ne se présente, ou si ton champion succombe dans le jugement de Dieu, tu mourras de la mort d'une sorcière. Telle est notre sentence. Que notre jugement soit inscrit sur nos registres et lu à haute voix, afin que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance.
Un des chapelains qui servait de commis au chapitre grossoya immédiatement cet ordre dans un gros volume qui contenait les procès-verbaux des chevaliers du temple lorsqu'ils étaient en séance solennelle. Puis, quand il eut fini d'écrire, un autre lut à haute voix la sentence du grand maître qui, traduite du français normand, était conçue en ces termes. Rebecca, juive, fille d'Isaac d'York, ayant été accusée de sorcellerie, de séduction et autres manœuvres damnables, dirigée sur un chevalier du très saint ordre du temple de Sion, a nié cette accusation, et dit que le témoignage délivré contre elle en ce jour est faux, méchant et déloyal, et allègue que par légitime et soin de sa personne, comme étant incapable de combattre dans sa propre cause, elle offre de soutenir son dire, représenté par un champion qui fera loyalement son devoir avec telles armes que choisira le porteur du gage de bataille, et cela à ses risques et périls. Elle a donné son gage, et le gage ayant été remis au noble seigneur et chevalier brillant de Bois-Guilbert du Saint-Ordre du Temple de Sion, celui-ci a reçu la mission d'engager le combat comme défenseur de son ordre et de lui-même, comme ayant été injurié et endommagé par les manœuvres et les artifices de la demanderesse. C'est pourquoi le très révérend père et puissant seigneur Lucas, marquis de Beaumanoir, a permis le dit cartel et le remplacement de la demanderesse, et a assigné le troisième jour pour le dit combat. L'endroit désigné étant l'enclos appelé la lice de Saint-Georges, près de la préceptorerie de Templestowe. Et le grand maître ordonne que la demanderesse y comparaisse par son champion sous peine de mort, comme personne convaincue de sortilège ou séduction. Et aussi arrête que le défendant comparaisse sous peine d'être tenu pour lâche et condamné par défaut. Et le noble seigneur et très révérend père a voulu que le combat ait lieu en sa propre présence, et selon l'usage en pareil cas, et que Dieu aide la bonne cause.
« Amen !» dit le grand maître. Rebecca ne dit rien, mais elle leva les yeux vers le ciel, et, croisant les mains, elle resta dans cette attitude pendant plus d'une minute. Puis elle rappela modestement au grand maître qu'il devait lui être accordé quelque facilité de communiquer librement avec ses amis pour pouvoir leur faire connaître sa position et se procurer, si la chose était possible, un champion qui embrassât sa cause.
« La demande est juste et légale, » répondit le grand maître. « Choisis un messager de confiance, et il communiquera librement avec toi dans ta prison. »
« Y a-t-il ici quelqu'un ? » s'écria Rebecca. « Qui, soit par amour pour une bonne cause ou pour une riche récompense, veuille se charger de rendre service à une personne malheureuse ?»
Nul ne répondit, car personne ne jugeait sans danger, en présence du grand maître, de témoigner de l'intérêt à la prisonnière calomniée, dans la crainte d'être soupçonnée d'un penchant vers le judaïsme. Bien moins encore un sentiment de compassion, ou l'appât d'une récompense, put maîtriser cette crainte. Rebecca resta quelques instants dans une inquiétude mortelle.
« Est-il possible ? » s'écria-t-elle enfin. « Que ce soit dans ce pays d'Angleterre que je me vois privée de la faible chance de salut qui me reste, faute d'un acte de charité qu'on ne refuserait pas au plus grand criminel ?»
Enfin, Hig, fils de Snell, répliqua.
« Je ne suis qu'un malheureux impotent,
Mais si j'ai encore un peu l'usage de mes membres, c'est à son assistance charitable que je le dois. Je ferai la commission, ajouta-t-il, se tournant vers Rebecca, aussi bien qu'il me sera possible. Plût à Dieu que mes membres fussent assez alertes pour réparer le mal qu'a fait ma langue. Hélas, quand j'ai loué ta charité, je ne me doutais guère que je t'exposais au péril.
Dieu, dit Rebecca, est le dispensateur de tout. Il peut mettre fin à la captivité de Judas, même en employant l'instrument le plus faible. Pour exécuter ses messages, le limaçon est un messager aussi rapide que le faucon. Cherche Isaac d'York. Voici de quoi payer ton cheval. Donne-lui cet écrit. Je ne sais pas si c'est un esprit céleste qui m'inspire, mais j'ai l'assurance que je ne mourrai pas de cette mort et qu'un champion se présentera pour moi. Adieu. Ma vie ou ma mort dépend de ta promptitude.
Le paysan prit le billet, qui ne contenait que quelques lignes en langue hébraïque. Plusieurs des assistants voulaient le dissuader de toucher à un document si suspect, mais Hig avait résolu de servir sa bienfaitrice. « Elle m'a sauvé le corps, dit-il, et je suis convaincu qu'elle ne peut pas mettre mon âme en péril. Je m'en vais, ajouta-t-il, emprunter le bon cheval de Butan, mon voisin, et je serai à York aussi promptement que le pourront homme et bête. » Par un heureux hasard, il n'eut pas besoin d'aller si loin, car à un quart de mille de la porte de la préceptorerie, il fit la rencontre de deux cavaliers, qu'à leurs habits et leurs grands bonnets jaunes, il reconnut pour juifs. En s'approchant davantage, il s'aperçut que l'un d'eux était son ancien maître, Isaac d'York. L'autre cavalier était le rabbin Ben Samuel, et tous deux, à la nouvelle que le grand maître avait réuni un chapitre pour le jugement du sorcière, s'était rapproché de la préceptorerie autant qu'il l'avait osé. « Frère Ben Samuel, disait Isaac, mon âme est troublée, et je ne sais pourquoi. Cette accusation de nécromancie est trop souvent mise en usage pour ne pas couvrir de mauvais desseins contre notre race. « Prends courage, mon frère, dit le médecin. Tu peux traiter avec les Nazaréens et acheter par là toute immunité. L'intérêt gouverne les esprits sauvages de ces hommes impies, comme, dit-on, le sceau du puissant Salomon commandait au mauvais génie. Mais quel est ce pauvre diable qui vient vers nous sur des béquilles et qui cherche, il me semble, à nous parler ? Ami, continua le médecin en s'adressant à Hig, fils de Snell, je ne te refuse pas le secours de mon art, mais je ne donne pas un liard à ceux qui demandent l'aumône sur la grande route. Fie donc ! As-tu la paralysie dans les jambes ? Alors que tes mains travaillent pour te procurer l'existence. Car bien que tu sois incapable de servir de courrier, de berger ou de soldat, ou même de te mettre au service d'un maître impatient, il te reste encore d'autres métiers pour t'occuper. « Qu'as-tu donc, mon frère ? » dit-il, interrompant sa harangue pour regarder Isaac, qui, ayant jeté un regard sur le billet que lui présentait Hig, laissa échapper un profond gémissement, glissa de sa mule comme un homme qui se meurt et resta quelques instants sans connaissance. Le rabbin, alarmé, sauta à bas de sa monture et employa avec empressement les remèdes que son art lui suggérait pour rappeler son compagnon à la vie. Il avait même sorti de sa poche une lancette et allait le saigner quand le juif se ranima tout à coup. Mais ce ne fut que pour jeter son bonnet loin de lui et répandre de la poussière sur ses cheveux gris. Le médecin attribua d'abord cet accès subit de violente émotion à une aberration d'esprit, et, revenant à son premier dessein, il disposait de nouveau ses instruments. Mais Isaac le convainquit bientôt de son erreur. « Fille de ma douleur, s'écria-t-il, on aurait dû te nommer Benoni et non Rebecca. Puisse ma mort précéder la tienne, de peur que dans l'amertume de mon cœur, je ne maudisse Dieu et ne perde mon âme. » « Frère, dit le rabbin très étonné, est-ce à toi, fils d'Israël, de proférer de semblables paroles ? J'espère que l'enfant de ta maison vit encore. » « Elle vit, reprit Isaac, mais c'est comme Daniel, qui fut appelé Bethel-Hazar, Balthazar, quand il fut jeté dans la fosse aux lions. Elle est captive parmi ces hommes de Bélial, et ils vont exercer leur cruauté sur elle, sans pitié pour sa jeunesse et pour sa beauté. Oh, elle était comme une couronne de palmes vertes sur mes cheveux blancs, et on la verra se flétrir dans une nuit comme le fruit de Jonas. Enfant de ma vieillesse, enfant de mon amour, oh Rebecca, fille de ma Rachel, les ténèbres de la mort t'environnent. Mais lis le billet, reprit le rabbin, peut-être trouverons-nous encore une voie de délivrance. Lis toi-même, répondit Isaac, car mes yeux sont obscurcis par les larmes.
Le médecin lut les mots suivants dans la langue israélite.
À Isaac, fils d'Adonicam, que les gentils appellent Isaac d'York, que la paix et la bénédiction de la promesse se répandent sur toi.
Mon père, je suis pour ainsi dire condamné à mourir pour un crime que mon âme ne connaît pas, c'est-à-dire pour le crime de sorcellerie. Si on peut trouver un homme courageux qui veuille combattre pour ma cause avec l'épée et la lance, dans la lice de Templestowne, à 3 jours d'ici, peut-être que le Dieu de nos pères lui donnera la force de défendre l'innocente qui n'a que ce secours dans son malheur. Mais si on ne peut le trouver, que nos vierges d'Israël pleurent sur moi, comme sur une de leurs compagnes qui n'existe plus, comme sur la biche frappée par le chasseur, comme sur la fleur abattue par la faux du moissonneur. Voyez donc ce que vous pouvez faire, et où vous pouvez trouver quelque secours. Il y a bien un guerrier nazaréen qui prendrait les armes pour me défendre. C'est Wilfrid, fils de Cédric, que les gentils appellent Ivanhoé. Mais peut-être qu'il ne peut pas encore soutenir le poids de son armure. Néanmoins, fais-lui savoir ce qui se passe, mon père, car il est considéré parmi les hommes puissants de son peuple, et comme il a été notre compagnon dans le malheur, il trouvera peut-être quelqu'un qui combattra pour ma cause. Et dis-lui, dis à Wilfrid, fils de Cédric, que, soit que Rebecca vive ou soit que Rebecca meure, elle est entièrement innocente du crime dont on l'accuse. Et si c'est la volonté de Dieu que tu sois privé de ta fille, ne reste pas plus longtemps sur cette terre de carnage et de cruauté. Pars pour Cordoue, où ton frère habite en sûreté à l'ombre du trône de Boabdil le Sarrasin. Car les cruautés exercées par les morts contre la race de Jacob sont moins sanglantes que celles des Nazaréens d'Angleterre.
Isaac écouta avec assez de calme la lecture de cette lettre. Puis il recommença ses cris et ses lamentations, déchirant ses vêtements, couvrant sa tête de poussière et s'écriant
« ma fille, chair de ma chair, os de mes os !»«
Reprends courage, lui dit le rabbin, car cette douleur est inutile. Redresse-toi et va chercher ce Wilfrid, fils de Cédric. » Qui sait s'il ne pourra te secourir de son conseil ou de son bras, car ce jeune homme est aimé de Richard, que les Nazaréens nomment cœur de lion, et la nouvelle se répand qu'il est de retour dans son royaume. Peut-être pourra-t-il obtenir de lui une lettre et son sceau défendant à ces hommes de sang, qui déshonorent le temple auquel ils empruntent leur nom, de mettre à exécution leur jugement inique.
« Je le chercherai, reprit Isaac, car c'est un bon jeune homme qui sympathise avec les exilés de Jacob. Mais il ne peut supporter son armure, et quel autre chrétien voudra prendre les armes pour les opprimer de Sion ?»«
Il me semble, dit le rabbin, que tu parles comme un homme qui ne connaît pas les gentils. Avec de l'or, tu achèteras leur valeur, comme avec de l'or, tu achèteras ta propre sécurité. »
Aie bon courage, et mets-toi en route pour découvrir ce Wilfrid d'Ivanhoé. J'agirai aussi de mon côté, car ce serait un grand péché de t'abandonner dans cette calamité. Je vais me rendre à York, où un grand nombre de guerriers et d'hommes forts se sont réunis, et sois certain que j'y trouverai quelqu'un qui combattra pour toi. Car l'or est leur dieu, et ces hommes sont toujours prêts à engager leur vie pour de l'or, aussi bien que pour des terres.
Mon frère, tu ne manqueras pas d'accomplir les promesses que je pourrais faire en ton nom.
« Assurément, mon frère, répondit Isaac, et béni soit le ciel qui m'a envoyé un consolateur dans ma misère. Cependant, n'accède pas tout de suite à leur demande, car la qualité reconnue de ce peuple maudit est de commencer par exiger des livres et de finir par accepter des onces. Au surplus, fais comme tu voudras, car cette affaire me bouleverse l'esprit. Et à quoi me servirait mon or si l'enfant de mon amour était arraché de mes bras ?»«
Adieu, » dit le médecin, « et que les désirs de ton cœur soient exaucés. »
Ils s'embrassèrent, et chacun d'eux prit la route qu'il devait suivre. Le paysan Perclus demeura quelque temps à les suivre des yeux.
« Ces chiens de juifs !» s'écria-t-il enfin. « Ils ne font pas plus d'attention à moi que si j'étais un esclave ou un turc. Ils auraient bien pu me jeter un sequin ou deux. Je n'étais pas obligé de leur apporter ce billet, au risque d'être ensorcelé, comme beaucoup de gens me l'ont dit. Et que m'importe la pièce d'or que la jeune fille m'a donnée, si je suis réprimandé par le prêtre le jour de Pâques, et si je dois lui donner deux fois autant pour me mettre bien avec lui, et par-dessus le marché, si je suis appelé pendant toute ma vie le courrier des Juifs, comme cela pourra bien m'arriver. Je crois que j'ai été véritablement ensorcelé quand je me suis approché de cette fille, mais il en a toujours été ainsi pour tous ceux qui se sont approchés d'elle. Personne ne peut rien lui refuser. Et encore à présent, je donnerai de grand cœur ma boutique et mes outils pour lui sauver la vie. »